enfance, retomber en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
Dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages, trafiquant d'import-export. Tomber d'en haut, comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors, le cœur en fête.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, aujourd'hui, nous allons faire de l'instruction civique. Vous savez sans doute que l'Assemblée nationale est l'institution française qui forme avec le Sénat le Parlement de la Ve République. Son rôle est de débattre, de proposer, d'amender et de voter les lois, et de contrôler l'action du gouvernement. À la différence du Sénat, elle a le pouvoir de forcer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Elle siège au Palais Bourbon à Paris. Depuis 1986, l'Assemblée nationale compte 577 membres, appelés députés, élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour une durée de 5 ans. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir M. Philippe Chassin, député de la première circonscription, qui a bien voulu venir nous parler à RLP de son métier de député. Monsieur le député, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je précise, c'est pas un métier, c'est une mission.
Monsieur Chassin va nous parler de sa mission, parce qu'effectivement, quand cette nuance peut-être précise qu'on s'y engage par vocation.
Alors, on se présente déjà, et puis ensuite on espère être élu. Mais pourquoi une mission? Parce qu'effectivement, vous avez un mandat et qui court sur 5 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, et pendant 5 ans, effectivement, vous prenez des responsabilités et vous décidez, vous prenez des choix politiques qui orientent en fait la destinée de ce pays.
Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a amené à briguer ce mandat et pour exercer cette mission?
Alors, initialement, je ne m'étais pas prédestiné à devenir député, mais il est vrai qu'au moment de l'élection présidentielle dernière, avec l'élection d'Emmanuel Macron, je me suis reconnu dans son programme. Voilà, j'ai un certain nombre de choses que je pouvais penser, je le retrouvais figuré dans son programme. Et donc, M. Macron a souhaité investir des candidats qui n'avaient pas forcément une longue histoire politique ou qui n'avaient pas un engagement d'élu local au préalable. Et donc, par conséquent, il a laissé la possibilité à celles et ceux qui le souhaitaient de venir s'investir dans la vie politique et puis demander à être se présenter aux élections et éventuellement être élu. Et c'est ce qui m'est arrivé avec beaucoup d'honneur.
Et vous avez 47 ans, si j'ai bien compté, depuis 1972. Mmh. Et donc, vous faites encore partie de cette majorité qui compte beaucoup de jeunes députés qui se sont engagés pour la première fois dans la vie politique.
Alors, il est vrai que cette élection a été particulière parce qu'on a vu arriver à l'Assemblée nationale toute une génération d'hommes et de femmes politiques qui n'avait pas forcément un passif politique très approfondi. Et on estimait que c'était une nouvelle population et qui avait un peu chassé l'ancienne population d'élus qui avait eu traditionnellement le poste de député à arriver finalement après une longue carrière politique. Et nous étions une nouvelle génération qui sommes arrivés là avec parfois davantage de compétences techniques plutôt que davantage de compétences politique.
Alors, avant de passer aux compétences techniques, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous a prédestiné ou poussé à choisir cette voie venant du métier qui était le vôtre?
Honnêtement, je pense que dans mon projet de vie ou dans mes ambitions personnelles, je savais que tôt ou tard, je souhaitais investir, prendre une responsabilité politique quelle qu'elle soit. Voilà. Alors je ne savais pas encore, j'avais pas défini totalement ce sur quoi je m'investirais plus particulièrement, mais c'est quelque chose que j'avais réfléchi parce que je trouvais que dans un parcours de vie, c'était intéressant aussi que les uns les autres puissions être à un moment en responsabilité, prendre des responsabilités pour d'autres, prendre des décisions pour d'autres, et je trouvais que c'était un honneur qu'on pouvait revendiquer, qu'on pouvait essayer de... que l'on pouvait, je dirais, poursuivre. Voilà.
Cette mission, vous l'exercez, vous êtes donc un élu de ce qui est convenu d'appeler maintenant les territoires, et donc vous partagez votre temps entre Périgueux et Paris. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que d'abord, c'est fatigant ? Est-ce que vous avez le temps de tout faire ? Comment ?
Alors, ma semaine se divise en trois. Le début de la semaine, en fait, je le consacre plutôt jusqu'au lundi, toute la journée, je la consacre à ma circonscription. Normalement, le mardi, mercredi, jeudi, je suis à Paris. Parfois, ça peut aller jusqu'au vendredi, si toutefois, il y a un texte sur lequel je suis investi qui exige que je sois présent à Paris, ben je reste un peu plus longtemps. Et souvent, donc le jeudi, je rentre sur Périgueux et je consacre le vendredi ou jeudi après-midi, vendredi, samedi à la vie de la circonscription.
Votre emploi du temps est quand même très rempli, parce que quand vous êtes ici, j'imagine que vous êtes l'objet de multiples sollicitations. Quand vous êtes à Paris, vous faites partie, comme beaucoup de députés, ou même tous, je suppose, d'une commission, qui est la commission des finances. Pourquoi avoir choisi cette commission ? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisie, ou est-ce que c'est...
Alors, initialement, on fait trois vœux, et on m'a affecté à la commission des finances, qui était en fait la commission un peu reine, parce que c'est là où tout se décide, parce que souvent, les décisions politiques sont aussi des décisions budgétaires. Mmh. Et donc, c'est vrai que tous les dossiers, tous les projets de loi vont passer tôt ou tard à la commission des finances, et c'est vrai que c'est un poste de vigie et stratégique très intéressant et très plutôt passionnant.
Cette activité à la commission des finances, elle vous prend beaucoup de temps
Oui, alors là, il y a des périodes où c'est plus intense. Là, nous sommes dans la période budgétaire, effectivement. Donc, tout l'automne, c'est une période où il y a le budget doit être voté. Donc, ça veut dire beaucoup de travail d'examen, d'amendement, mais différents textes législatifs qui a trait au budget. Et ensuite, chaque commissaire des finances, en fait, a une spécialité. Il essaie de se spécialiser sur un thème particulier parce que les sujets sont extrêmement techniques. Et moi, je me suis initialement intéressé à la question du surendettement et toutes les politiques qui mènent à l'inclusion bancaire. Mmh. Donc, c'est sur ce sujet-là que j'ai essayé d'avoir une expertise et un regard plus approfondi pour être en mesure, en fait, de challenger, par exemple, Bercy et le ministère pour essayer de faire avancer la loi dans ce domaine.
Alors cet intérêt pour les entreprises, pour le fonctionnement des institutions bancaires, pour le surendettement, est-ce qu'il vous vient de votre ancien métier ou...
Non, en fait, on m'avait affecté à ce sujet. J'avais fait un premier rapport sur le surendettement qui m'avait intéressé. Et puis, je voyais que la politique publique en matière de surendettement était plutôt une politique qui était assez maîtrisée, puisque le nombre de dossiers avait tendance à diminuer. Et puis, progressivement, je me suis intéressé à toutes celles et ceux qui étaient qu'on appelle en fragilité financière, qui représente à peu près 3,5 millions de personnes dans ce pays. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait mieux protéger ces populations, parce qu'ils étaient en réalité un peu dans l'antichambre du surendettement, et qui, du fait du comportement de certaines banques, parfois pouvaient avoir des incidents bancaires relativement élevés et qui les plongeaient dans une forme de précarité. Et donc, un des enjeux, c'était, sur un plan législatif et auprès du gouvernement, d'aller vers une protection, un plafond, faire en sorte que ces populations soient mieux protégées. Nous sommes aujourd'hui, nous avons fait un pas. À mon avis, nous devons encore progresser et probablement l'inscrire plus fortement et cranter plus fortement dans la loi un certain nombre de dispositifs et de leviers que nous utilisons justement pour protéger ces populations.
Ici encore, je vous repose la question, est-ce que là aussi il y a des antécédents familiaux ou une ambiance familiale qui vous a poussé vers ces centres d'intérêt ?
Alors pour la politique, je pense que ma famille, mon père était intéressé par la vie politique, mais on a toujours parlé de choses et d'autres, de choses d'autres politiques. Ensuite, il y a mon parcours personnel qui m'a intéressé toujours. Enfin, je me suis toujours intéressé à la vie politique. J'ai milité, j'ai été un militant, soit syndical, soit politique. Donc, je crois que j'avais une appétence. Et encore une fois, dans mon parcours de vie, je pensais que effectivement, c'était quelque chose que j'avais envisagé. Voilà. Donc, j'ai été surpris finalement que un des premiers mandats, c'est d'être député, parce qu'effectivement, pour beaucoup, c'est la fin d'une carrière. Mais bon, j'en tire beaucoup de satisfaction et je trouve que c'est un poste exaltant et qui réclame beaucoup d'humilité, mais aussi sur un plan intellectuel extrêmement stimulant.
Oui, j'imagine. Mais alors, est-ce que vous envisagez d'ores et déjà, après cette expérience de 2 ans de mandature, d'abord de renouveler l'expérience, et puis ensuite peut-être de passer par d'autres rouages tels que le Sénat, ou bien de faire une carrière d'élu, de maire
À ce stade-là, je suis tellement concentré sur mon mandat et sur la mission qui est la mienne et sur le dossier que j'essaye de mener à bout et à bien, que voilà, je préfère me concentrer sur ces sujets-là aujourd'hui viendra un moment où je me poserai la question, mais c'est pas à ce stade, c'est encore prématuré.
Quand on consulte votre site, on s'aperçoit aussi que vous êtes président de l'association, enfin du groupe d'amitié France-Lettonie. Et vice-président du groupe d'amitié France-Libéria. D'où vient cet intérêt pour ces pays ? Est-ce que c'est bon, comme...
S'agissant
ça vous tombe dessus aussi comme les commissions ou bien...
Non, s'agissant de la présidente du groupe d'amitié avec la Lettonie, en fait, chaque député est invité, peut, s'il le souhaite, candidater pour renforcer en fait, les liens diplomatiques qu'il peut exercer avec différents pays. Et on m'avait proposé plusieurs pays. Et en fait, pour une raison assez un peu due au hasard, j'ai choisi la Lettonie parce que j'avais lu un livre sur la Lettonie qui ça m'avait plutôt intéressé. Voilà. Et donc du coup, je me suis investi dans cette relation bilatérale avec la Lettonie. Et j'y trouve vraiment beaucoup de satisfaction parce qu'en fait, la Lettonie est un pays très intéressant, nouveau pays qui est rentré dans l'Union européenne sous peu et aussi qui a basculé dans une ère dans l'économie de marché et le capitalisme. Et donc, qui l'applique un peu à marche forcée parfois avec les dégâts que ça peut générer. Et ils regardent la France avec beaucoup d'espoir en se disant que la France est un modèle pour eux, justement, en termes d'équilibre créé entre, d'une part, l'économie marché, le capitalisme, mais aussi des niveaux de protection très élevés. Et en même temps, alors pour le coup, je suis obligé de le dire, ils ont aussi une forte, je dirais pas passion, mais ils regardent avec beaucoup d'envie notre président qui les inspire, en fait. Voilà. Et dans le monde aujourd'hui, eh bien, il faut le reconnaître que vous avez une voix d'un président progressiste. Et je pense que les Lettons ont compris que finalement, ils avaient plutôt intérêt à aller vers des pays, vers un pays comme la France et être inspiré peut-être par le président Macron qui veut remettre la question de l'européenne et de son progrès social que génère l'Union européenne au cœur de la construction européenne. Et ça, je pense qu'eux l'ont très bien entendu et très bien compris.
Et ça se surajoute alors à l'image qui est traditionnellement quand même assez bonne de la France en Europe orientale.
Oui, encore une fois, force de constater que nous avons un président qui aujourd'hui a un écho et une voix incontestable. Et aux yeux de ces pays de l'Est, il représente un espoir.
Après que vous ayez été un petit peu amené par le hasard vers la Lettonie, j'imagine que vous avez concrétisé ça par des visites dans ce pays.
Oui, alors je les ai fait venir en France. Ils sont venus en Dordogne, ils ont visité ce territoire. Et puis j'ai eu la chance, effectivement, dans le cadre d'une mission d'évaluation des agents du Trésor à l'étranger, je me suis rendu en Lettonie. Et donc j'ai pu, j'ai eu la possibilité de m'échanger avec des responsables politiques de haut niveau en Lettonie. Et tous m'ont dit l'intérêt qu'ils voyaient, l'intérêt qu'ils avaient à écouter le président Macron et la traduction politique qu'ils souhaitaient mettre en œuvre au sein de l'Union européenne. Et vraiment, on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, globalement, dans les différents pays européens, vous avez une espèce de structuration politique qui veut que vous avez d'un côté des partis populistes, et puis d'autre l'autre côté, vous avez les progressistes. Et les progressistes, en fait, ils pour pouvoir gouverner, sont obligés de s'allier. Et c'est un peu ce qui se passe pour le macronisme, en fait, d'une certaine manière, qui allie des gens qui ont une obédience politique, plutôt comme moi, de social-démocrate, avec des gens de centre-droit, et qui considèrent qu'au final, eh bien, il vaut mieux s'allier plutôt que de renforcer des partis extrémistes. Et quand on regarde ce qui fait notre pays, qui a été relativement stable politiquement, c'est l'Allemagne, et qui a gouverné pendant très longtemps entre des sociaux-démocrates et la social-démocratie, enfin, et des personnes de droite incarnées par Merkel. Mais en fait, Merkel a inventé, de manière un peu très humblement, mais a inventé une forme de macronisme avant l'heure. Cette stabilité politique en Allemagne est le résultat aussi d'une alliance entre des gens qui viennent d'origine politique un peu différente, puisqu'il y a des sociaux-démocrates qui gouvernent aujourd'hui qui ont gouverné longtemps avec Merkel. Et donc, ça permet un équilibre. Et ce qui permet, au fond, aussi d'engager des réformes puissantes, parce que, au fond, il y a un consensus politique qui fait que, oui, on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de réformes structurelles importantes. Et ce qui a peut-être aujourd'hui beaucoup péché dans ce pays, depuis une trentaine d'années, d'être dans l'incapacité de mener des réformes structurelles fortes. On le voit aujourd'hui avec les retraites, où, au fond, ça fait consensus au sein de la classe politique entre gens de sociaux-démocrates et plutôt centre-droit, que cette réforme est nécessaire.
Est-ce que, pour autant, la montée des populismes en Europe, quand même dans des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, vous trouvez ça préoccupant ?
Alors moi, je suis très préoccupé. Je loue finalement la créativité, la volonté d'Emmanuel Macron d'avoir scellé autour de lui une alliance de gens de droite et de gauche. En fait, c'est ça qui nous préserve aujourd'hui d'un gouvernement qui serait fondé sur des extrêmes. Voilà. Il ne faut pas se tromper de combat, en fait. Hein. À un moment, il faut aussi se dire la démocratie, c'est certes voter pour celui qui est le plus proche de vous, mais ça peut être quelqu'un de relativement éloigné. D'accord ? Et c'est notre capacité à faire du consensus qui nous fera avancer.
On va revenir vers vos préoccupations internationales. Le Libéria.
Alors, le Libéria, alors là, pour le coup, je dois dire que les relations bilatérales avec le Libéria sont relativement modestes. C'est un de mes collègues députés amis qui m'a demandé d'être son vice-président, mais force est de constater que relations sont au point mort.
C'est pas une de vos préoccupations essentielles, et c'est pas le Libéria qui vous mange une partie importante de votre temps.
Alors qu'à la différence, la relation bilatérale qu'on entretient avec la Lettonie est beaucoup plus intense, puisque nous allons envoyer sous peu une délégation aussi de députés en Lettonie, justement pour conforter, pour favoriser en fait les échanges. Et je veux dire que là, en fait, très modestement, mais je suis assez fier de ce que nous avons fait, parce que pendant 20 ans pratiquement, il n'y avait rien eu d'échange diplomatique de haut niveau, de députés en tout cas, entre la Lettonie et la France. Et là, depuis le début de mon mandat, en fait, on a réussi à rétablir une relation plutôt forte, à la fois avec l'ambassadeur de Lettonie et aussi avec mon homologue lettonne, qui a compris l'intérêt qu'il y avait à échanger.
Quand on devient, comme vous, député, en ayant finalement un passé d'activité politique relativement limité, même si vous avez milité dans des associations, vous avez un passé quand même de militant politique, est-ce que c'est excitant de se retrouver un beau jour sur les travées du Palais Bourbon et investi de pouvoirs de représentation qui sont ceux d'un député ?
Est-ce que... Oui, alors il y a beaucoup d'émotions la première fois où on rentre dans l'hémicycle. Mais juste le mot limité de Mac. En fait, j'ai mûri un projet de me lancer dans la politique. Voilà. C'est quelque chose qui est arrivé à point nommé, mais j'étais finalement assez prêt pour entamer une carrière politique, je dois dire. Voilà. Je ne suis pas allé la fleur au fusil en me disant on verra bien. Je pense que profondément, j'étais relativement. J'avais fréquenté un certain nombre de partis politiques. J'avais été aussi militant. J'avais observé la vie politique de manière très précise, et donc je savais ce que je voulais faire et ce que je n'aurais pas fait. Et donc voilà, je me sentais assez prêt. S'agissant maintenant de l'émotion et de l'adrénaline que l'on a lorsqu'on rentre dans l'hémicycle, effectivement, on a des moments, les premières fois, c'est assez... on se sent touché parce que le lieu nous appelle à beaucoup de hauteur de vue, parce qu'il y a une noblesse dans les prises de décision que nous prenons, parce qu'il y a au-delà des polémiques que l'on voit là, ça c'est les choses qui sont assez médiatisées. Mais en réalité, lorsque nous sommes en commission et lorsque nous travaillons, il y a vraiment, et moi je reconnais souvent pas l'inscription que nous faisons de la vie politique dans ce pays, mais il y a beaucoup de noblesse dans les décisions que nous prenons. Et quelles que soient les parties que nous, quelles que soient les décisions que nous prenons, quelquefois nous avons des divergences de vues, mais quelles que soient les hommes politiques, en réalité, parfois il y a des postures. Mais pour la plupart, celles et ceux qui durent en politique, j'ai le sentiment qu'il y a des convictions qui sont fortement ancrées. Et donc, et des convictions pour l'intérêt collectif. Et ça, c'est ça qui m'a profondément surpris et marqué. Mais...
Vous avez parlé tout à l'heure d'émotion. Et est-ce qu'il y a quand même, depuis quelques années, un petit vent d'antiparlementarisme qui se développe dans notre pays? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçu dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle? Et vous parlez tout à l'heure de médiatisation. Quand on offre aux spectateurs le spectacle du vote de certaines dispositions législatives devant des travées pratiquement désertes, est-ce que ça vous paraît pas un petit peu dommageable pour l'image de cette Assemblée?
Bon, alors, il faut comprendre comment fonctionne l'Assemblée, c'est-à-dire que l'hémicycle n'est pas en permanence plein, tout simplement parce qu'il y a un travail en commission qui prépare les textes, voilà. Et donc, au fur et à mesure de l'écoulement du texte, eh bien, les députés qui sont plus concernés et plus investir sur ces textes vont dans l'hémicycle pour défendre leur point de vue. Après, le vote solennel, chaque fois qu'il y a un vote solennel sur un texte de loi, la majorité de l'hémicycle est présent, voilà. Mais il est vrai que dans la discussion concernant l'élaboration de la loi, vous avez en permanence, enfin l'Assemblée est ouverte à pratiquement 24 heures sur 24, je dirais. Et donc vous avez en permanence des textes qui sont débattus. Voilà. Donc vous ne pouvez pas être spécialiste de tout. C'est pas possible en fait, parce que c'est des sujets extrêmement techniques. Ce qui exige de vous, en fait, que vous, comme je le disais tout à l'heure, de vous spécialiser. Et cette spécialisation, bah, elle fait que vous auditionnez des personnes au même moment où vous avez dans l'hémicycle des débats. Donc vous ne pouvez pas être à deux endroits différents. Moi, où je trouve que ce qu'il y a de regrettable dans le fonctionnement de l'Assemblée, c'est que parfois on agit un peu dans la précipitation. Voilà, il y a des textes de loi, il y a des amendements, pas des textes de loi, des amendements parfois qui peuvent passer et qui sont déposés un peu au dernier moment par le gouvernement. Alors c'est rarement des choses très, 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 très importantes, mais en tout cas on n'a pas forcément le temps de les étudier convenablement par l'Assemblée. En revanche, je trouve qu'il y a, comme je disais, beaucoup de hauteur la recherche permanente de l'intérêt collectif qui préside à nos décisions incontestablement et de la part de la plupart des partis, exclus les partis extrémistes.
Mais quand vous parlez d'amendements, ces amendements, ils sont proposés et discutés, mais dans le cours normal de navette entre le Sénat et l'Assemblée.
Non, en fait, on étudie le texte dans sa totalité à l'Assemblée, puis ensuite le texte part au Sénat, il nous revient, et s'il n'y a pas de ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui est conclusive, eh bien en fait, le texte revient à l'Assemblée. Voilà. Et là, on réexamine, et on essaye de... On réexamine, et puis c'est le dernier mot à partir de l'Assemblée nationale.
Oui, bien sûr.
Ensuite... Bon, comme je vous disais, moi je pense qu'il y a des réformes à faire au sein de l'Assemblée, incontestablement. Il faut qu'on puisse arriver à davantage être les contrôleurs de l'action publique et l'action de l'État, incontestablement. Et ça, probablement qu'on a encore des difficultés et il nous manque des moyens. Enfin, il reste... moi je crois que... Il faut qu'on arrive à mieux démontrer le travail des... C'est peut-être pour ça que votre émission a un intérêt aussi pour ça. C'est de démontrer aussi l'intérêt et le travail qui est réalisé par les députés. Et qui, dans l'unique travail... le travail n'est pas exclusivement d'être dans l'hémicycle. C'est de consulter, c'est d'étudier, d'auditionner, de questionner pour pouvoir atteindre... pour essayer de se faire une opinion. Voilà. Et dernière chose, en même temps, dans le rôle des députés, en fait, le député... Il est aussi dans une fonction, je dirais, chacun peut y mettre un peu la patte qu'il veut dans la manière dont il va exercer sa fonction de député. Certains vont être plus des députés de circonscription parce qu'ils feront un travail en lien avec les élus locaux, avec la population. D'autres seront beaucoup plus investis sur les textes de loi à Paris. D'autres seront plus investis sur l'évaluation de la loi. D'autres seront plus investis sur un texte très, très précis et vont porter quelque chose davantage dans le débat public. D'autres seront investis davantage dans les médias pour essayer d'être porté de parole. Donc en fait, chacun y met un peu de la coloration qu'il soit il,
le personnel. Voilà. Oui. Le temps passe malheureusement trop vite. Et maintenant, je voudrais vous poser alors une série de questions sur le fond, sur la manière dont vous voyez les choses de votre position, qui est quand même privilégiée. Où va le département? Où va la France? Où va l'Europe? Où va le monde? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes foncièrement pessimiste?
Je suis un optimiste. Voilà, j'ai confiance dans notre fonctionnement démocratique. Je pense que c'est perfectible. Mais je pense que ça nous garantit en permanence cette question de la liberté et en préservant aussi ce qu'on a en même temps l'égalité. J'ai été lecteur assidu de Tocqueville, donc, et ce conflit permanent des démocraties est inhérent aux démocraties, justement. Mais bon, sur un plan départemental, je pense que nous avons des enjeux, mais c'est moins mon périmètre, mais il y a des enjeux de sortir cette partie de la population dans la difficulté, la précarité, incontestablement, et il faut mener des politiques économiques et sociales plus fortes et plus puissantes. Et je pense que le gouvernement y contribue en essayant justement d'investir les territoires, en essayant de réhabiller avec des services publics de proximité les endroits un peu plus reculés de ce territoire. Sur un plan national, je dirais que la France est un pays qui a des opportunités incroyables. Voilà, je pense que nous avons su préserver un cadre de vie, nous avons su avoir une économie qui a plutôt prospéré, nous avons la possibilité, nous avons des systèmes sociaux et éducatifs qui sont performants. Donc nous avons toutes nos chances en fait dans cette mondialisation. Incontestablement, moi j'ai plutôt confiance et je me dis qu'aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs nous démontrent que finalement nous sommes un pays attractif, le niveau de chômage baisse, les investissements des pays des entreprises étrangères dans ce pays augmentent, donc un certain nombre de choses, le pouvoir d'achat aussi progresse, donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses, des éléments plutôt positifs. Ensuite, où va le monde? Eh bien, le défi de ce monde, c'est aujourd'hui de faire face à ce réchauffement climatique. Et je crois comprendre que quand même parmi l'ensemble des décideurs du monde, alors certes, il y a toujours des exceptions, mais... Il y a toujours des exceptions, mais globalement, il y a une prise de conscience du fait que nous avons un enjeu devant nous. Et je voudrais juste te dire deux choses là-dessus. En fait, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en fait, le grand défi, c'était de sortir de la nucléarisation, en fait, qui faisait que potentiellement, s'il y avait une guerre qui éclatait, on pouvait détruire le monde. Et finalement, les décideurs de ce monde ont réussi à limiter le développement des armes nucléaires. Ensuite, ma génération, on avait le risque de l'accroissement de la couche d'ozone qui faisait que les ultraviolets, finalement, ne seraient plus... Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous, on a un nouveau défi à notre génération, c'est le réchauffement climatique, mais à chaque fois, finalement, la réaction humaine et la réaction politique a permis de trouver des solutions.
Vous croyez qu'il faut une menace comme ça, planétaire, pour faire avancer le monde, après l'apocalypse nucléaire, la menace de la catastrophe écologique?
On ne l'a pas cherché, mais nous sommes face à cette situation.
Je sais que vos journées ont plus de 24 heures, que vos semaines ont plus de 7 jours. Est-ce que vous avez encore le temps d'avoir des passe-temps, des hobbies? Est-ce que vous avez encore le temps de passer un peu de temps avec votre famille?
Alors pour moi, c'est mon équilibre, j'en ai besoin, il faut que j'amène ma fille à l'école, je me consacre souvent le week-end, j'essaye quand même d'amener mes enfants tout simplement au basket, ici à Chamiers, voilà, je fais des choses très simples et j'en suis très heureux, et ça participe à mon équilibre et surtout à ne pas perdre la tête, voilà. Mais et me retrouver un peu en famille le dimanche ou faire des choses très très simples, c'est aussi ce que j'apprécie.
Monsieur Philippe Chassin, merci beaucoup de
ces
informations que vous avez apportées et de cette conclusion pleine de sagesse. Et joyeux Noël.
Merci, monsieur.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.